Vous écoutez RTL.
Il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon.
La curiosité est un vilain défaut.
Bien, à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent.
C'est Denis Bonnet, Thomas Hugues.
Ça s'en va et ça revient.
On est bien avec du Claude François dans le casque. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Ça va, Sidonie ?
Ça va très bien, Thomas. Je vois que Claude François chante la chaleur alors que nous, on a extrêmement froid. Oui, enfin, ça fait du bien. Hein.
Oui, ça fait du bien. On va donc vous raconter la saga Claude François sur RTL. C'était il y a 40 ans, le 11 mars 1978. RTL interrompt ses programmes.
Claude François ne chantera plus, Claude François ne dansera plus. La nouvelle est tombée comme un couperet cet après-midi sur les téléscripteurs. Claude François est mort vers 15h dans sa salle de bain. Il est mort bêtement, électrocuté alors qu'il tentait de remplacer une ampoule qui venait de claquer.
La mort de Claude François, une déflagration, un choc pour des millions de fans. On vous raconte les secrets de ce personnage hors norme avec notre invité François Pomès. Bonjour.
Soyez bienvenue.
Bienvenue, vous êtes journaliste, réalisateur. Ce 11 mars 1978, que doit-il faire Claude François? C'est quoi son programme de la journée?
Alors d'abord, le téléphone n'arrête pas de sonner chez Claude François dans son appartement du boulevard Exelmans parce qu'il est attendu chez Michel Drucker. Enfin, pas chez Michel Drucker.
Pour son émission.
Pour son émission, Les Rendez-vous du dimanche, qu'il doit enregistrer à 15h sur le plateau des Buttes-Chaumont à Paris. Et il est en retard. Il est en retard parce que la veille, il était à Lézin en Suisse. Il s'est couché tard à 2h30 et il dort. Donc il est 13h, 13h15. Claude François vient à peine de se réveiller. Il prend son petit déjeuner. Très classique, tartine avec du caviar dessus.
Vous avez fait très détail, vous. Hein
ah bah ce sont les détails racontés dans sa biographie. Ouais. Et puis, il va prendre un bain de soleil, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faisait très, très froid en France. Et ce 11 mars 78, c'est un samedi, il fait beau. Donc, il va sur sa terrasse.
On sort d'un hiver très rigoureux,
comme actuellement.
Un peu comme aujourd'hui.
Donc, lui, il en profite, il va sur sa terrasse. Et c'est Rémy Grumbach, le réalisateur de l'émission, qui appelle, qui dit « Mais on attend Claude François. Mmh. » La programmatrice appelle, on attend Claude François. Et enfin, Claude François daigne descendre de sa terrasse.
Il file sous la douche.
Je vais prendre ma douche.
Ouais. Donc il meurt électrocuté. On sait qu'il a cherché à remettre en place une applique, c'est ça
Oui, parce que dans votre petit extrait, effectivement, on raconte qu'il change une ampoule. Pas du tout. C'est un malade du détail. Et il voit cette applique en s'essuyant qui a bougé d'un demi-centimètre. Et ce qu'il a envie de faire, Claude François, c'est de la remettre en place. Et avec sa main, hop, l'applique est en cuivre. Il la repousse d'un demi-centimètre. Et c'est là, en fait, qu'il prend le courant.
Est-ce qu'il a des derniers mots, des dernières paroles, Claude François?
Deux mots. Help me. Aide-moi.
En anglais, il dit ça. Pourquoi il dit ça en anglais?
Parce qu'à ce moment-là de sa vie, il est avec Kathleen Jones, qui est une Américaine. Claude François est amoureux de l'Amérique. Et enfin, il termine sa vie avec une Américaine. Il peut parler en anglais. Il adore parler en anglais avec elle. D'ailleurs, pendant qu'il se douche, il parle anglais avec elle. La porte est entrouverte. Et donc, effectivement, la seule personne qui l'appelle en disant help me, c'est Kathleen Jones qui accourt pour l'aider. Et elle le voit collé à l'applique.
À l'époque, Claude François est en pleine gloire. Il n'a que 39 ans. Et son nouveau disque doit sortir dans quelques jours.
Parquer sur les filles et parquer sur le Nil. Je suis dans ta vie.
C'était Alexandre et Alexandra.
Je suis dans tes bras.
Évidemment, moi aussi je suis dans tes bras, mais lesquels? C'est ça la question. Ça. Ça va rester un tube pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui. Ça se danse, ça se chante encore. François Pomès, ça représente quoi l'Empire Claude François au moment de sa mort, il y a 40 ans?
L'Empire Claude François au moment de sa mort, c'est d'abord des disques, 35 millions de disques vendus, ce sont des concerts. Entre 62 et le moment de sa mort, il est allé plus de 1000 fois sur scène, 1100 fois je crois, il a donné des concerts, c'est immense. Mais c'est pas que ça, parce que Claude François c'est un visionnaire, c'est un homme d'entreprise. Mmh. Il a repris Podium, il a créé un magazine de charme qui entre-temps s'est fermé. Il a créé une agence de mannequins, Girls Models, il a créé un parfum, bref, il a créé un empire.
Est-ce qu'il a pensé à l'après aussi, Claude François, à l'héritage? On parle beaucoup d'héritage en ce moment avec l'affaire Johnny Hallyday. Qui va hériter de sa fortune et des droits de ses chansons?
Alors, je pense pas qu'il ait pensé à son héritage, bien que Claude François refusait de vieillir et il avait peur d'un cap, celui des 40 ans. Il meurt à 39, donc on se dit peut-être qu'il a prévu quelque chose. Pas du tout. En fait, ses deux seuls héritiers, ben, ce sont ses enfants légitimes, Claude François Junior, dit Coco, et Marc François, qui hériteront, en fait, ils sont mineurs, attention, donc c'est l'exécuteur testamentaire, mm-hmm. Alain-Dominique Perrin, qui, jusqu'à la majorité, va leur verser un salaire, etc., qui va gérer les droits, mais ce sont eux qui vont hériter de l'Empire Claude François.
Alors, dans le doc que vous avez réalisé, qui est rediffusé ce soir sur Paris Première, on découvre un Claude François maniaque du détail, mais aussi pas forcément très bon camarade avec ses camarades chanteurs. Qu'est-ce qu'il faisait parfois lors des premières parties de ces galas, de ces concerts?
Ce sont les histoires qu'on adore raconter.
Ben oui.
C'est vrai qu'il était, il avait une personnalité assez particulière. Il pouvait engueuler ses chanteurs, ses musiciens, pardon, en plein concert. Il pouvait les virer en plein concert, mais pour les réengager tout de suite après, parce qu'il entendait un contretemps qui ne lui plaisait pas, parce qu'il apercevait un musicien avec une chaussure non lacée, donc il allait tout de suite lui faire le reproche. Et d'ailleurs, moi, j'ai 2-3 témoignages dans le documentaire qui abordent ces questions-là.
Les premières parties, alors, c'est quoi l'histoire?
On raconte plusieurs histoires. On raconte que pour éviter que les premières parties soient trop bonnes, ils pouvaient débrancher les micros ou les sonos de temps en temps pour éviter que ce soit trop bon. C'est peut-être une légende, ça.
Bon, peut-être.
En tout cas, elle est sympa à raconter. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de la raconter sur RTL. Et donc, ce soir sur Paris Première, puisqu'il y a votre documentaire, François Pommès, on y découvre aussi un séducteur, souvent cruel avec ses conquêtes. On va vous révéler pourquoi dans un instant sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Claude François est mort il y a 40 ans. On vous dévoile ses secrets avec le journaliste et réalisateur François Pommès. Votre documentaire, rediffusé ce soir sur Paris Première, révèle l'existence d'une fille cachée de Claude François. Elle s'appelle Julie. Comment a-t-il rencontré sa mère, Claude François? C'est quoi leur histoire d'amour?
Comment a-t-il rencontré Fabienne? Il a rencontré Fabienne dans le sud de la France. Fabienne est la sœur d'une grande fille qui sort à l'époque avec Slim Pesin, qui est le chef d'orchestre de Claude François. Donc c'est comme ça que la connexion se fait entre Fabienne et Claude François dans une radio locale à l'époque, c'est Sud Radio, en années 75, l'été 75. Fabienne et Claude se rencontrent et Claude tombe, on va pas dire amoureux, mais il aime cette petite Fabienne avec qui...
C'est une jeune fille, toute jeune fille.
Elle a une quinzaine d'années, là débute une idylle en fait, et Fabienne tombe enceinte en 77, janvier 77, elle s'en rend compte. Elle a 15 ans.
Ils vont rester combien de temps ensemble?
On va dire quelques mois, une année. Mais quand elle se rend compte qu'elle est enceinte, elle veut prévenir Claude François, qui est déjà sur la route, à droite à gauche. Il ne peut pas la voir. Il ne veut pas la voir, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, lorsque ses parents, à Fabienne, apprennent qu'elle est enceinte, c'est trop tard, elle ne peut pas avorter. Et les parents décident tout de suite que l'enfant naîtra sous X et qu'il sera adopté plus tard, qu'elle ne gardera pas son enfant.
François Pommès, comment avez-vous convaincu ce duo mère-fille et en tout cas sa fille Julie de témoigner?
Ça a été très long, ça a pris de longs mois, d'abord pour la retrouver. Et quand j'ai retrouvé Julie, en fait, on s'est parlé peut-être 15 fois, 20 fois au téléphone. Et je lui ai expliqué le documentaire. Claude raconté par des proches amis et collaborateurs. Et un jour, je lui dis, vous savez, vous êtes certainement la personne la plus proche de Claude François sans jamais l'avoir rencontré. Et une semaine après, elle me rappelle, elle me dit, c'est vrai, alors rencontrons-nous. Et là, c'est une situation assez ubuesque parce que j'arrive avec mon chef opérateur, mon cadreur, en Belgique, en Flandre. Et là, je ne savais pas ce que j'allais voir. Je croyais rencontrer Julie. En fait, je rencontre Julie, sa mère biologique Fabienne et une des filles de Julie. On déjeune et à la fin du déjeuner, Julie me dit « Ok, on peut tourner l'interview ». C'est comme ça que ça s'est fait.
Pourquoi elle n'avait pas parlé avant, la mère de Julie?
Alors la mère de Julie n'a jamais parlé, ne parlera je pense jamais. C'est une personne qui est très discrète et qui a été profondément marquée par le fait qu'on lui arrache son enfant, parce qu'on lui a arraché son enfant. Elle n'a pas eu le droit de le voir, elle ne connaissait même pas le sexe de son enfant. Elle ne l'a jamais perdu de vue, cela dit, mais ça a été un traumatisme. Et Julie a parlé aujourd'hui parce que je pense qu'elle était prête. À 40 ans, elle s'est dit que j'arrivais peut-être au bon endroit, au bon moment, et que c'était le moment de parler. Pour écrire la dernière page du livre de ses origines, c'était important pour elle.
Alors pour comprendre les relations de Claude François avec les femmes, il faut remonter à sa première et seule épouse, Jeannette. Histoire douloureuse, pourquoi ?
Jeannette Houlacote, il la rencontre en 1959 à l'Olympia. Elle lui tombe quasiment dans les bras d'un escalier. Il se marie, c'est effectivement sa seule femme, et certainement la seule compagne brune de la vie de Claude François. Elle le quitte pour qui ? pour Gilbert Bécaud. Alors aujourd'hui, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais à l'époque, Gilbert Bécaud, c'était la star numéro un.
Au-dessus de Claude François ?
Mais au-dessus de Claude François à l'époque, puisque depuis les années 60, Claude François, c'est pas grand-chose. Et lui, qui a une rivalité très particulière avec les autres artistes, il se dit « elle me quitte ». Mais pour qui ? Pour Gilbert Bécaud, il s'en remettra jamais. À partir de là, je crois qu'il n'aimera que les filles blondes. Et Lecoeuvre, Fabien Lecoeuvre le dit dans le documentaire, il fera certainement payer à toutes les autres femmes ce que Jeannette l'a fait souffrir.
Et peut-être comme avec France Gall, il a d'ailleurs chanté sa rupture, la fin de sa relation avec France Gall dans « Comme d'habitude ». François Pommès, France Gall et Claude François, c'est une histoire qui a duré longtemps, qui a été houleuse ou calme ?
Houleuse. Bon, alors je crois que comme toutes les histoires d'amour avec Claude François, c'était une histoire passionnelle et passionnée. Il rencontre France Gall en 1964, ça durera 3 ans. C'est quoi ? C'est une histoire faite de rupture, de passion,
de jalousie.
D'énormément de jalousie, notamment tout le monde connaît cette fameuse histoire quand elle remporte l'Eurovision 65, il lui raccroche au nez en lui disant « tu as gagné l'Eurovision mais moi tu m'as perdu ». Ça c'est en 65. Ils ne se séparent qu'en 67, donc ça veut dire qu'ils reviendront ensemble, ils se rabibocheront. C'est une véritable passion, hein, France Gall. Ils n'arrêtaient pas de s'appeler, ils étaient amoureux l'un de l'autre. Et je suis pas sûr qu'il s'en remettra, il écrit comme d'habitude pour France Gall en 1967.
Comme d'habitude, qui devient, il faut quand même le dire d'un mot, parce que c'est une rente pour ses ayants droit aujourd'hui, parce que ça devient My Way, et c'est la chanson la plus chantée au monde, c'est ça ?
Alors c'est une des chansons françaises les plus exportées dans le monde, je crois qu'il existe 2000 versions de Comme d'habitude, c'est un immense succès planétaire.
La curiosité continue sur RTL, on va découvrir un autre Claude François, l'homme d'affaires, le patron très dur avec ses salariés. Mais avant, on danse
avec Claude
François cette année-là.
Adieu à Marilyn, au cœur d'or, tandis que West Side battait tous les records. Cette année-là, les guitares tiraient sur les violons. On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là. Aujourd'hui rien n'a changé.
François sur RTL cette année-là.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Pardon de m'immiscer les petits curieux. Je profite de ce podcast pour vous inviter à nous rejoindre, moi et ma petite bande, pour À la bonne heure, dès 11h sur RTL. Un invité tous les jours, du rire, des infos étonnantes et le plein de bonne humeur. Avant de passer à table, ce serait dommage de rater ça, non? Allez les curieux, je vous laisse avec Thomas et Sidonie.
Je me suicidais que de m'arrêter de chanter.
La curiosité est un vilain défaut.
Claude-François veut absolument tout contrôler de A à Z.
Thomas Huguet.
Donc il faisait tout. Il était médecin, il était prescripteur, il était artiste, il était chauffeur. Il était absolument tout.
Sidonie Bonnec.
À partir du moment où il sortait de chez lui, il était Claude-François.
Extrait du documentaire Claude François, le dernier pharaon, diffusé ce soir sur Paris Première, 23h05. Alors, on a écouté les voix évidemment de Jean-Pierre Foucault et de Fabien Lecoeuvre. François Pomès, vous avez réalisé ce documentaire. Clo-Clo qui reste une star 40 ans après sa mort. Ses chansons, elles continuent de faire danser des générations. Tiens, selon un sondage publié il y a quelques années, la chanson préférée de Claude François, préférée des Français, c'est Belle, Belle, Belle.
Elles sont toutes
François Pomès, les fans de Claude François, c'est une histoire particulière. C'est aussi pour ça, peut-être, que sa mémoire est aussi forte et que ses tubes durent aussi longtemps. C'était quoi la relation de Clo-Clo avec ses fans?
Je crois qu'on a vu ça très rarement chez un artiste, peut-être chez Bruel ensuite. Claude François avait créé un système tout autour de lui, des fans, et notamment des fans parisiennes qui étaient là, qui l'attendaient, qui savaient exactement où il devait aller. Comme dit très bien Foucault, lui-même ne savait pas où il devait aller, les fans le savaient.
Mais comment il avait organisé ça?
C'était organisé vraiment comme une armée mexicaine. Il y avait des chefs, il y avait des sous-chefs, etc. Et lui, quand il arrivait, il fallait le toucher. Il se faisait toucher partout. Elle raconte certaines avec des détails scabreux où il adorait se faire toucher, caresser des cheveux jusqu'aux pieds, etc. Quand il montait dans sa voiture, elle lui caressait le bras. Enfin, tout ça, c'était monté. Mais en même temps, ça participait de l'entreprise Claude François.
C'était aussi un homme d'affaires. Vous parlez de l'entreprise Claude François. Qu'est-ce qu'il aimait dans le business? Le pouvoir? L'argent?
Claude François aimait ce côté de l'entreprise à l'américaine que lui inspirait Daniel Philippaki, ce grand patron de radio, de presse. Daniel, c'est Philippaki, c'est Salut les copains, ce sont les magazines. Et Claude François avait une admiration pour ce système-là. Et donc, il avait toujours rêvé de créer une grande entreprise à l'américaine, de façon très pyramidale, avec lui en haut, avec un feutre rouge. Il corrigeait tous les documents de son entreprise au feutre rouge, parce que seul le chef, il avait lu dans un livre, avait droit au feutre rouge. Et sur toutes ses activités, c'était pareil. Donc il y avait la musique, les magazines, l'agence de mannequins, le parfum, tout ça. Et ça, c'était son rêve. Et à la fin de sa vie, il aura accédé à ce rêve-là.
Alors François Pomès, ce feutre rouge, on le retrouve dans un livre signé Isabelle Catelan. Les notes confidentielles de Claude François, c'est publié chez Michel Lafon. Isabelle Catelan qui est avec nous au téléphone. Bonjour.
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 Alors, ce sont des archives très personnelles que vous avez récupérées. Comment les avez-vous trouvées?
Alors, moi, j'ai repris Podium, la rédaction en chef de Podium en 79. Il s'avère que je me suis retrouvée dans le mobilier de Claude François. Et dans les armoires figuraient toutes ces notes, tous ses écrits, et dans ses notes figuraient, bien entendu, les notes qu'il destinait à ses collaborateurs, mais également dans son quotidien, pour ses proches, etc. Donc, voilà comment j'ai pu lire attentivement et me délecter de toutes ces notes.
On retrouve ce côté organisateur, maniaque du détail, diront certains,
oui.
et parfois très dur avec ses salariés. Parmi ces notes, il y a une menace directe à la standardiste du magazine Podium. Qu'est-ce qu'il lui reproche?
Alors, il lui reproche d'avoir laissé entrer une personne dans son bureau, et cette personne étant en faisant partie, on va dire, de non pas de son cercle le plus proche, mais de ses salariés, et visiblement personne n'avait accès à son bureau, et donc il menace tout simplement de la virer si ça se présentait une nouvelle fois.
Isabelle Catelan, Claude François contrôle aussi les horaires de ses salariés. Quelle note en témoigne?
Alors il y a une note extrêmement drôle, ou pas, tout dépend de quel côté on se place, mais en tous les cas, il vérifiait à la minute et à la seconde près si les personnes exécutaient bien les 40 heures. Donc on peut voir que sur certaines, il précisait qu'elle avait travaillé 39h45 minutes. Donc celle-ci recevait une note de service pour rappel, assez salée, et celle qui dépassait les 40 heures, qui, elle recevait un cadeau, une bouteille d'eau de vie de framboise.
Ce qui n'est pas cher payer les heures sup, parce qu'il y a, il y a une Pascaline qui faisait 55h25 quand même.
Donc, elle avait 8 bouteilles d'eau de vie de framboise.
Exactement. Donc c'est le côté, voilà, il y avait le règlement, ce côté obsessionnel, maniaque, voilà, 40 heures c'est 40 heures, et si en plus on peut en faire plus, comme lui il travaillait, je vais dire sans compter, quand on voit ses agendas que je publie dans le livre, on se demande comment il faisait être artiste, rédacteur en chef, diriger un magazine, etc. Donc ça, j'avoue qu'il avait visiblement lui-même une énergie de dingue.
C'est vrai. Merci beaucoup Isabelle Catelan. Les notes confidentielles de Claude François, c'est donc publié chez Michel Lafon. François Pommès, pourquoi il crée Podium, Claude François? Parce qu'on parle de ce magazine, mais
alors, il
a un but
pas.
Particulier.
Il le rachète. Il rachète Podium à Claude Bernardini, un homme qui avait créé ce Podium à Toulouse, qui était un petit magazine. Il rachète Podium pour une raison très très simple, c'est qu'il estime que le magazine star de l'époque, Salut les copains, ne le traite pas à sa juste valeur. Il ne comprend pas pourquoi il ne fait pas 12 couvertures sur Salut les copains, parce que c'est la star numéro 1. Ouais. Donc il se dit, c'est très simple, pour avoir un magazine à ma gloire, alors il ne raisonne pas forcément comme ça, Claude François, mais il se dit, je vais créer Podium parce que le public m'attend, moi, Claude François. Et d'ailleurs, il n'a pas tort, parce que les seules fois où Podium ne met pas Claude François en couverture, les ventes chutent.
Claude François qui achète sa propre presse, mais qui sait aussi manipuler la presse. Démonstration dans un court instant sur RTL et puis dans la curiosité. On va partager la vie quotidienne des Romains sous l'Antiquité. Et Thomas est déjà dans sa toge.
Ça y est, je l'ai enfilé.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Et Claude François sur RTL, c'est une saga musicale comme on les aime dans la curiosité. D'ailleurs, sur RTL.fr, vous pouvez écouter, réécouter les podcasts des émissions consacrées à France Gall, Étienne Dao, Mylène Farmer, Prince ou encore David Bowie. Et donc, aujourd'hui, Claude François avec le réalisateur François Pommès. Je voudrais qu'on parle d'une dernière anecdote pour montrer à quel point il pouvait mettre en scène son histoire et son image. C'est l'histoire d'un malaise sur scène. Vous pouvez nous raconter la suite?
Alors nous sommes en 1970, salle Vallier à Marseille. Jean-Pierre Foucault a animé la première partie du concert de Claude François. On arrive à la fin du concert, c'est toujours très dynamique, il y a beaucoup de lumière, Claude François danse, il tourne autour de lui, autour de ses musiciens, et là, il s'écroule sur scène, il tombe littéralement. Le public est pétrifié. Jean-Pierre Foucault monte sur scène, à la demande de Lederman, annonce au public que c'est fini, qu'il n'y aura plus de suite de concert. Et là, on voit dans la presse qui se déchaîne des photos d'un Claude François évanoui. La vérité, en réalité, c'est Jean-Pierre Foucault qui la raconte dans mon documentaire. Claude François était numéro 2. Johnny était premier.
Il a un petit creux dans sa carrière, on va dire ça.
Il était numéro 2. Voilà. Pour lui, c'était un énorme creux. Hein, si vous voulez, c'était impensable. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec l'idée de Lederman? Il dit, on va inventer quelque chose pour que la presse se déchaîne et que tu repasses premier. Tu vas t'évanouir sur scène. Et Foucault le raconte très, très bien, ça. Il s'évanouit sur scène. C'est complètement faux. Et ça fonctionne, parce qu'après, les ventes reprennent.
Et ben voilà, un faux malaise pour relancer un tout petit creux de carrière, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, François Pommès.
Je sens que je vais m'évanouir.
Non, vous n'en avez pas besoin, elle est au top, votre carrière. Le dernier pharaon, c'est le titre de votre documentaire à voir ce soir sur Paris Première, 23h05.
Merci
à vous.